Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors le 17 février, donc dans 2 jours, marque le début du carême. Le mot, je vous le rappelle, vient du latin quadragesima, qui veut dire 40e, en référence aux 40 jours de cette montée vers Pâques. Je vous propose maintenant d'en parler sous l'angle théologique du sacrifice et ensuite de distinguer les plans psychologiques, moral, spirituel et mystique de la question. J'en parle avec Jean-Marc Barrault, chroniqueur et professeur adjoint à l'Institut des études religieuses de l'Université de Montréal. Jean-Marc, bonjour, bienvenue.
Oui, merci, ça fait plaisir de vous retrouver.
Comme toutes les 2 semaines, c'est un rendez-vous amical. Vous parlez donc l'angle du sacrifice avec carême. Si je vous comprends grossièrement, c'est que oui, pendant le carême, je fais sacrifice de certaines choses que j'aime en temps ordinaire. Ça, c'est au premier niveau, j'imagine.
Oui, puis je voudrais, puisque vous avez dit que c'est une petite chronique théologique, en effet, je voudrais profiter pour dire simplement que théologiquement, on se trompe souvent en mettant l'accent sur le sacrifice. Alors que le carême, en fait, n'est pas premièrement un moment de sacrifice. C'est un moment de conversion. Mais la conversion n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, nous le montre bien. Il n'y en a qu'un seul qui évalue le salut de l'humanité entière, c'est celui du Christ. Oui. Et donc, on n'a pas à être sacrifié, puisque le Christ a sauvé l'humanité. Donc, tout le travail du carême, me semble-t-il, c'est de... vraiment se convertir pour cet accueil de cet unique sacrifice du Christ, qu'on appelle la grâce.
Pardonnez-moi Jean-Marc, mais sacrifice, si on fait un peu d'étymologie, et c'est très simple, c'est sacer, le sacré, facere, c'est faire sacré, faire du sacré. Oui, vous dites qu'il y a eu un seul sacrifice, c'est Jésus dans sa passion, sa croix et la rédemption. Parfait, mais je veux dire, un sacrifice... Comment dirais-je ? Vous semblez opposer un peu facilement la conversion avec le sacrifice. Est-ce qu'on peut pas... La conversion participe également du sacrifice ?
Je pense pas, non. Je pense à un autre paradigme. Parce que vous avez raison au niveau épistémologique, c'est le facere, donc c'est l'analogie du travail, du labeur. Hein. Et la conversion, et je trouve que dans l'Église, dans la culture ecclésiale, on a souvent mis l'accent sur le sacrifice, mais aussi sur cet aspect laborieux associé au carême. Et c'est ce que je voudrais passer comme message, c'est que c'est un autre paradigme, c'est un autre paysage, c'est un autre point de vue, un autre angle, un autre prisme, je ne sais pas comment dire, c'est celui de laisser le Christ venir en nous. Et ça, puisque vous aimez le latin, c'est plus de l'ordre de l'adgéré. C'est-à-dire, adgérer, facere, vous voyez, ce vis-à-vis, c'est...
De l'agir.
Voilà, se laisser rejoindre pour agir fort de cette visite du Christ en nous. Et si je puis me permettre, les tentations de Jésus au désert, qui sont quand même l'un des textes fondateurs, j'allais dire, de la spiritualité ou pourquoi pas de la mystique du carême, souvent on ne les comprend pas tout à fait bien. On dit, ben oui, le carême c'est le temps de la tentation, donc il faut faire sacrifice pour éloigner le malin, pour etc. Il y a tout ce côté fantasmatique, si vous voulez, qui n'est pas juste. Parce que, en fait, encore une fois, ces tentations du Christ au carême, c'est pour nous en libérer. Donc...
Le Christ au désert, ces 3 tentations sont comme un genre de pré-sacrifice de la croix.
Alors oui, vous avez raison. On pourrait tout à fait, avec des théologiens comme Balthazar par exemple, mais reprendre cette chose-là et montrer qu'en effet, c'est déjà l'heure de la croix, l'heure de manière joannique, l'heure anticipée, tout à fait.
Pardonnez-moi, vous parlez de Balthazar, de joannique, ça veut dire quoi tout ça? C'est Urs von Balthasar, le théologien ?
Oui, tout à fait, oui.
Et Joannick, c'est selon saint Jean ?
Oui, tout à fait, oui.
Oui, d'accord. Tout à fait.
L'heure, si je reprends l'heure dans l'évangile de Jean, c'est l'heure de la croix. Hein, quand le Christ dit à Cana, mon heure n'est pas encore venue, femme, c'est l'heure de la croix. Et c'est vrai que dans ces tentations au désert, il y a quelque chose de l'heure qui n'est pas encore venue, mais qui est déjà un peu assumée.
Je comprends.
Qui est déjà pris. Et c'est vrai que Jésus prend chacune de nos tentations, de nos découragements. Et donc le carême, c'est ce temps en fait où nous sommes invités à laisser Jésus prendre tout ça en nous. Donc pour ça que c'est pas de l'ordre du fait tiré, si on reprend ce que nous disions au début, mais faire. De l'ordre de l'agir. Ouais.
Si je vous comprends bien, Jean-Marc Barraud, concrètement, il y a des gens qui nous écoutent et qui voudront faire carême. Vous leur dites pas allez danser, buvez, danser aujourd'hui c'est un peu difficile pendant la pandémie, mais réjouissez-vous ou faites la fête. C'est pas ce que vous êtes en train de dire là, quand même.
Je leur dis de réfléchir à ces distinctions comme on fait amicalement avec vous entre fait gérer et adgérer, et de voir que la conversion c'est une question d'amour et que le carême c'est un moment où nous sommes invités à donner du temps à l'amour. C'est-à-dire au Christ qui vient nous visiter, mais aussi à ce qu'on appelle la charité fraternelle dans le langage de l'Église, c'est-à-dire au prochain. Vous savez, il y a cette ce magnifique vis-à-vis dans Matthieu chapitre 9, verset 14-17, quand les disciples de Jean se tournent vers Jésus, puis ils disent à Jésus avec un petit côté jaloux, « Enfin, pourquoi tes disciples à toi, ils ne jeûnent pas ?» Et Jésus répond, est-ce que les compagnons de l'époux peuvent être dans le deuil tant que l'époux est avec eux? Et il va dire non. Et ensuite, à la fin, il va avoir cette affirmation qui est vraiment énigmatique, en tout cas dans une première lecture, il dit « Personne n'ajoute à un vieux manteau un ajout d'étoffe neuve. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est la nouvelle alliance. Donc en fait, tout ce qui est du vieux manteau ou des vieilles outres, c'est le sacrifice compris comme l'ancienne alliance, avant l'incarnation du Christ, avant la croix rédemptrice du Christ.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait pénitence? Vous êtes continuez votre réflexion, je crois que je vous ai interrompu, Jean-Marc Barraud. Finissez votre réflexion.
Non, je vous en prie, je vois où vous allez, c'est très pertinent, c'est que la question de la pénitence a malgré tout quand même sa place. Mais elle n'est plus... Voilà, donc il n'y a pas de dialectique, mais il y a un ordre. Et en fait, c'est que on est avec l'époux, on est avec le vin nouveau de Cana, ce miracle du Christ quand il institue sa vie apostolique, en tout cas dans l'évangile de Jean. Et en fait, c'est l'image, ce vin nouveau, de sa grâce. Et donc, tout ce qui va être bénéfique dans le carême en termes de sacrifice, c'est ce qui sera le fruit de sa grâce. Sinon, c'est peine perdue. Donc, c'est pour ça que c'est un temps de prière, c'est un temps de réception de sa grâce, pour qu'il nous invite à poser des actes, je dirais pas de sacrifice, parce que le mot est pipé, mais plus de charité. Moi, je dirais plus ça, pour être précis.
Je soupçonne chez vous un rejet de jansénisme, Jean-Marc Barraud. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que le janséniste va penser que par ses œuvres, par sa mortification, par son austérité, il va mériter peut-être, il va avoir peut-être une place un peu plus qu'un strapontin au paradis. Enfin, il y a beaucoup de restrictions morales qui permettent de se hausser, si vous voulez, pour caricaturer cela. J'imagine que vous êtes aux antipodes de cette vision-là.
Ben, écoutez, moi, c'est un compliment que vous me faites, mais je parle plus de l'Évangile que de moi, et dans mon herméneutique ou ma lecture de l'Évangile, que je crois théologique, je pense que c'est en effet pas du tout janséniste. Une petite histoire rapidement, quand j'enseignais avant d'avoir le poste à l'Université de Montréal, j'ai été professeur invité au Bernardin à Paris, au Collège des Bernardins, et qui est juste en face de Notre-Dame de Paris. Tous les vendredis après-midi, c'était pendant le temps du carême, j'allais confesser. Et alors j'ai été marqué par cela, par le fait que 90% des personnes qui venaient se confesser, se confessaient de ne pas avoir une bonne morale, se confessaient de ne pas suffisamment faire de sacrifices, d'efforts, etc. Puis je les écoutais, puis de temps en temps, gentiment, mais délicatement, je leur disais, mais c'est curieux, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore rentré dans la vie chrétienne. C'est pas la morale qui définit la vie chrétienne, même si elle est importante. C'est pas le sacrifice, c'est une rencontre. Et c'est cette rencontre avec un Dieu qui s'est incarné, qui s'est offert pour nous. Et c'est par lui que, en fait, on rentre dans un agir qui est, d'après moi, beaucoup plus mystique et en même temps beaucoup plus paisible que, en effet, des traces de jansénisme.
Sauf que Jean-Marc Barraud, vous pouvez pas quand même demander à chaque chrétien qui fait carême d'être mystique. Je veux dire, imaginez si tous les chrétiens étaient mystiques, ce serait un bordel monumental.
Vous savez, pour moi, la mystique, c'est pas être flayé. La mystique, c'est le primat de l'amour dans notre vie. Si on la définit comme ça, je souhaite que l'humanité entière soit mystique. Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que vous parliez d'aspect psychologique. Paradoxalement, notre psychologie fait qu'on va préférer l'aspect sacrificiel, que, donc l'aspect du facere, que l'aspect de l'agir porté par la grâce.
Pourquoi parce donc
que, parce qu'il y en a un qu'on sent et l'autre pas. Celui du sacrifice, ça fait mal, donc je le sens. Oui. Donc je peux le mesurer. Mmh. Alors que celui qui est plus porté par une mystique en tant qu'amour, je ne le sens pas nécessairement. Je peux le sentir, mais pas nécessairement. Et donc je m'y perds. Mais ça, tout ça, c'est l'enseignement de Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et de grands maîtres spirituels.
Oui, mais dans le sacrifice, dans le carême, il faut quand même passer par... On est des êtres psychologiques. En vous entendant, j'entends souvent cette méfiance des religieux à l'égard de tout ce qui est psychologie, psychanalyse, etc. L'être humain est quand même fait de ça. Quand je fais pénitence ou quand je fais carême, même selon vos indications, si j'ose dire, selon vos pistes... Il y a quand même une psychologie qui se met en branle. On peut quand même pas mettre tout ça entre parenthèses. C'est la grande tentation chrétienne de court-circuiter la psychologie. Mais c'est là.
Jean-Philippe, vous êtes en train de me faire un procès d'intention.
Non, je pose une question que beaucoup d'auditeurs certainement se posent.
Parce que, très, très sincèrement, merci de la question. Simplement, le rôle du théologien, et j'essaie de le faire humblement, c'est de distinguer les choses pour les ordonner. Ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement de distinguer facere et agere, pour dire que carême est plus un moment par la grâce d'agir, c'est proche de l'amour. Et deuxièmement, que ce n'était pas en premier lieu une question psychologique où on sent l'effort que nous faisons, le sacrifice, ouais, mais plus un côté de réceptivité de la grâce qu'on ne sent pas nécessairement. Donc je n'oppose pas. Mais je mets un ordre entre les deux, effectivement. Je pense que cet ordre... Oui, voilà, c'est simplement ça.
Et le spirituel dans tout ça, où est-ce que vous le placez? Dans cette espèce d'échelle de Jacob, avec des échelons différents selon le niveau, le degré de ontologique?
C'est intéressant que vous disiez ça, parce que j'ai donné 3 heures de cours en spiritualité santé. Et je questionnais mes étudiantes et étudiants en disant, écoutez, c'est délicat de mesurer le spirituel, parce que la santé, on sait par exemple sur une échelle de 10 si le patient il souffre plus ou moins, mais en termes de spiritualité, c'est très difficile. Et je crois que c'est ça la véritable ascèse chrétienne, c'est de laisser en fait nous laisser attirer par la grâce pour rentrer dans cette dimension qui n'est pas la nôtre, parce que c'est ce vin nouveau, c'est le Christ, pour ne plus mesurer. Il y a quelque chose que je ne mesure plus dans la vie chrétienne, et ce qui fait que je vais m'abandonner, je vais me remettre, parce que je ne mesure plus. Et là, on est vraiment dans l'agir. On est vraiment dans l'agir et non plus dans le facere.
Encore une fois, pardonnez-moi Jean-Marc Barraud, je me méfie d'une chose quand même. Quand on abandonne la mesure, j'ai l'impression qu'on va... On saute un peu trop vite dans la mystique ou dans le spirituel. Il faut quand même, dans une démarche comme celle du carême, il faut quand même mesurer certaines choses. Il faut baliser le chemin. Il faut voir un peu le chemin parcouru. Et on peut pas... Vous savez, il y a ce mot de Platon que j'aime beaucoup, il y a 2500 ans. Ne pas faire l'un trop vite. Ne pas sauter trop vite dans la mystique. Elle viendra en temps et lieu. Et commençons par les œuvres. Commençons par se priver de bonbons, ne pas boire de vin le vendredi, ou manger du poisson, ou manger des graines, enfin, je ne sais pas trop quoi. Il y a quand même... On a besoin d'éléments tangibles dans ce processus. Vous ne pensez pas?
Qu'il soit dans ce cas-là... Par exemple, vous voyez, si j'étais votre accompagnateur spirituel, Jean-Philippe...
Oh là là!
Je vérifierais, si vous me demandiez, en ce temps de carême, quels sont vos actes de charité. Et je ne vérifierais pas quelles sont vos privations. Parce que je m'inscris, comme on l'a dit auparavant, plus dans la dimension de l'agir, de l'adgérer, qui est directement liée à la grâce, qu'aux œuvres, en effet. Mais, je ne renonce pas pour autant à l'aspect sacrificiel. Mais il doit être, si on veut qu'il fasse partie de la grâce du carême, il doit être porté par l'amour, il doit être porté par la grâce. Et donc, il faut faire passer la grâce en premier. Je n'oppose pas, j'établis juste un ordre entre les deux.
Je reviens à ma première définition étymologique de sacrifice, faire du sacré. C'est devenu doloriste avec le temps, mais faire du sacré n'implique pas nécessairement se tordre les boyaux.
Non, mais c'est ce dialogue des disciples de Jean-Baptiste avec Jésus, oui. Qui sont jaloux, et Jésus va dire... à vin nouveau, outre neuf, il est en train de nous faire basculer dans une autre dimension. Le carême, c'est repartir de lui. Mmh. Et donc, c'est parce que le sacrifice, étymologiquement parlant, tel que vous l'avancez, de manière très juste, c'est partir de nous. La vie chrétienne, c'est partir de lui pour se retrouver soi. Et ça, c'est une vraie conversion. Et elle n'est pas si facile que ça dans un monde assez individualiste, égologique, et qui mesure énormément. Donc, vous voyez, je veux juste mettre ça en avant sans durcir ou opposer les choses, mais c'est ça qui me semblait important. Ouais.
Il nous reste 3 minutes, Jean-Marc Barrault. On n'a pas vraiment parlé de la purification. Quand j'entends... ce soit des juifs ou des musulmans et des chrétiens, parler de jeûne, de privation, enfin, on parle d'une purification, faire le vide pour cultiver le creux, cultiver le manque, cesser d'avoir le ventre plein, faire un sacrifice justement de cela pour créer un vide, un appel d'air. La grâce, c'est bien beau, mais pour qu'il y ait un appel d'air de la grâce, il faut qu'il y ait un manque en moi-même. Si j'ai trop bien mangé, je suis trop heureux, ou j'ai assez d'argent, ou tout va correctement dans ma vie, il n'y a pas de place pour la grâce. Il faut quand même se purifier d'une façon ou d'une autre.
Je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est la grâce qui crée le désir et ce n'est pas le vide. En psychanalyse, bien sûr, et je n'ai rien contre, même je suis passionné de la chose, mais en termes spécifiquement de cette réflexion sur le carême et dans la vie chrétienne, je pense que c'est dans la surabondance de la grâce, dans la surabondance du vin nouveau, que curieusement, il va se créer non pas un vide, mais un désir qui va alors peut-être m'inviter à des dépassements que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cette surabondance de grâce.
C'est comme la poule et l'œuf. Je veux dire, oui, sans poule, il n'y a pas d'œuf, et sans œuf, il n'y a pas de poule. Sans grâce, il n'y a pas de désir, mais sans désir, il n'y a pas de grâce non plus. Vous semblez dire que Dieu est le premier à agir, même chez quelqu'un qui est obtus complètement à cette question-là, et qui, soudain, il va être frappé par la grâce.
Alors, il ne va pas être frappé, ça c'est un langage un peu janséniste, Jean-Philippe, mais il va être touché, tout à fait. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement conscients qu'ils sont habités, marqués par la grâce, et qui le sont profondément.
Et l'inverse aussi.
Bien entendu, oui, tout à fait, oui. Oui, je crois. Il y en a qui pensent l'être et qui ne l'ont pas. Mais heureusement que Dieu est plus grand que notre conscience. Oui, tout à fait.
Heureusement, effectivement. Jean-Marc Barrault, écoutez, on va vous souhaiter une bonne entrée en carême, même si c'est avec toutes les restrictions liées à la pandémie. En tout cas, bonne montée de carême. Et puis, on vous retrouve dans 2 semaines.
C'est avec plaisir, toujours, Jean-Philippe.
Allez, merci beaucoup, Jean-Marc Barrault. À dans 2 semaines. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, des nouvelles économiques et Keystone XL, l'Alberta est finalement laissée à elle-même. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.